Voilà, on va laisser la parole de Dieu nous instruire ce matin, qu'elle puisse vraiment nous aider à encore comprendre certaines choses qui nous sont nécessaires dans notre vie spirituelle. Prions. Seigneur, nous te remercions parce que ta parole est la vérité et nous avons besoin d'être enseignés dans ta parole. Merci de ce que tu le fais pour les enfants, mais aussi pour nous ce matin. Seigneur, que nous soyons ouverts à recevoir et aussi à être bien disposés à mettre en pratique toutes ces choses. Père, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans Actes chapitre 2. En fait, c'est un message qui est lié à la Pentecôte, qui est notre journée aujourd'hui, dimanche de Pentecôte. Et on va lire tout d'abord dans chapitre 2 des Actes, du verset 1er jusqu'au verset 13. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Ils se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux, venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Et au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration. Et ils disaient, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et tous ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes. En fait, c'est tous les pays qui, à l'époque, étaient considérés comme étant le monde connu à cette époque-là. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu, et tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes, et se disaient les uns aux autres, « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient, « Ils sont pleins de vin doux. » Voyez-vous, il y a toujours deux attitudes, ceux qui ont l'attitude positive de reconnaître des choses qu'ils ne connaissent pas, et d'autres qui se rabattent sur ce qu'ils connaissent. Ils connaissent des gens qui sont ivres, et donc ils l'attribuent à l'ivresse. Hein. Vous voyez, ça c'est les rationalistes. Hein. Ceux qui, en fonction de ce qu'ils voient, ils essaient de mettre une compréhension visible. Alors que d'autres, ils sont étonnés, perplexes, voyez-vous. Qu'est-ce que cela veut dire? Et je crois qu'on doit tous avoir cette attitude ouverte, perplexe. Vous connaissez bien cette réalité juive où les juifs ils ont différentes attitudes vis-à-vis des enfants. Et quel est pour eux l'enfant qu'ils considèrent comme intelligent? Voilà, c'est celui qui pose des questions. Voyez-vous, c'est pas celui qui répond aux questions. Voyez-vous, nous, peut-être en bon français, on pense que l'intelligence, c'est celui qui est le premier de la classe, qui répond aux questions. Non, non. Vous voyez, comme quoi les juifs ont une pensée, une sémite qui est différente. Pour eux, c'est pas celui qui répond à toutes les questions, c'est celui qui pose des questions. C'est intéressant. Voyez-vous, ça rejoint la pensée biblique. Ils se posaient des questions. Ils n'avaient pas toutes les réponses. Ils se posaient des questions. Donc, posons-nous des questions. Restons dans cette attitude d'un enfant intelligent selon l'écriture qui pose des questions. Est-ce que vous connaissez tout sur Dieu? Est-ce que vous connaissez tout sur la création? Est-ce que vous connaissez tout? Non. Alors restons humbles et restons à poser des questions. C'est ainsi que le Seigneur pourra remplir. Hein. Si nous sommes déjà remplis de toutes les réponses, il n'y a plus besoin d'en recevoir. Voilà. Donc ça c'est une première attitude. La deuxième chose que je voudrais souligner, c'est que si vous avez bien écouté la manière dont je l'ai lu, j'ai bien insisté sur le fait qu'il est dit que tout à coup vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle. Hein. Vous voyez, c'est comme. C'est pas réellement du vent, c'est pas réellement un souffle, c'est comme un souffle violent. Et ensuite, après, ils étaient remplis. Où est-ce que c'est la deuxième chose qui est importante quand les langues sont venues, elles se posaient. Je le retrouve plus maintenant. Enfin, je l'ai. Pardon ? Voilà, qui semblait de feu, voilà. Merci. Des langues qui semblaient de feu, voyez-vous. Très souvent, on dessine la Pentecôte, les langues de feu, voyez-vous. Et donc, du coup, on associe, il faut faire attention aux images, hein, qui sont des images religieuses, parce que parfois, on connaît mieux les images religieuses, qu'on appelle les images d'Épinal, hein, sur l'enfer, avec les. Mais c'est pas du tout ça, hein. C'était une représentation au Moyen-Âge qu'on se faisait des choses. C'est la parole de Dieu. Il faut toujours revenir à la parole. Donc, lisez bien la parole pour bien, disons, reprendre les mots qui sont utilisés. Les langues semblaient de feu. Okay, c'est pas du feu physique. C'est pas un feu qui est descendu comme ça, comme des langues de feu. C'est quand ils semblaient de feu. Pour revenir à la Pentecôte, Evelyne, qu'est-ce que ça veut dire Pentecôte? Le mot Pentecôte. Je te coince là, non? Mais comme on se pose des questions, autant être ouvert à. Vous voyez, on utilise des mots, Pâques, Pentecôte, et on ne sait pas trop ce que ça veut dire, mais il y a une vraie signification derrière. Pentecôte. Qu'est-ce qui peut me traduire le nom Pentecôte? Pentecôte, ça veut dire quelque chose de précis? Il y en a un. Oui, mais bon, si on interroge les PhD en théologie, pas encore, mais. Alors, Pentecôte. Non, on va y venir. La signification de Pentecôte, mais le mot Pentecôte, vous le traduisez très bien. C'est le cinquantième. En fait, Pentecôte, ça veut dire le cinquantième. Vous voyez comme quoi c'est très pragmatique, hein, c'est la Pentecôte. Le cinquantième. Parce que Pentecôte, ça vient de Panta. Panta, ça veut dire quoi, Panta? Pardon? Panta? Non, oui, Pentagone, c'est un dérivé de Panta. Mais Panta, tout seul, Panta, 5. 5, Panta 5. Pensez à Panta, 5. Alors, il y a le pentagramme, c'est 5 étoiles, etc. Pentacle, etc. Bon, Panta, c'est 5. Donc, le Pentecôte, c'est le 50e. Le 50e de quoi? Alors, ça veut dire quoi, le 50e? 50e jour. À partir d'où, 50e? Pâques. Donc vous prenez Pâques et vous rajoutez 50 jours et vous arrivez à la Pentecôte. Voilà. Et en fait, c'est une fête qui a été instituée par Dieu dans l'ancienne alliance, qui s'appelait, alors j'ai entendu, il y a donc des fêtes, ils avaient des noms et des significations. Donc c'est la fête de. Pardon? Oui, alors 50 jours, ça veut dire. Comment c'est marqué dans Lévitique? C'est pas marqué les 50 jours, mais. 7 fois 7. Oui, tu y es là, tu brûles toujours, toi, mais. La fête des semaines, ça s'appelle. La fête des semaines. Vous connaissez bien Lévitique par cœur, oui, tous. C'est bien. Rassurez-vous, moi non plus. Mais c'est la fête des semaines. Une semaine, il y a combien de jours? 7 jours. Et 7 semaines, ça fait. 7 fois 7, bien, 49. Donc c'est le 50e jour, voyez-vous, la fête des semaines, cette semaine. Alors, continuons à bien nous imprégner de tout cela. Pâques, c'était la fête de quoi? Oh, dans l'Ancien Testament, au niveau de l'Ancienne Alliance. Pâques, pardon? Pâques. Sortie d'Égypte, déjà. Mais, alors, il y avait plusieurs significations. Il y avait l'événement de la sortie d'Égypte, mais aussi un événement agricole. Parce que c'était très souvent lié aussi les fêtes à l'agriculture, qui était aussi un moyen de bénir le Seigneur pour se rappeler que si nous pouvons exister sur le plan physique et spirituel aussi, eh bien, c'est grâce au Seigneur qui nous donne, hein, la nourriture. Alors, c'était quoi comme fête agricole? C'est dommage, j'ai pas ramené ce qu'il fallait, mais je l'avais fait. Alors c'est quoi là? La fête agricole qui était liée à la fête de la Pâque. Pardon? Non. C'est Pentecôte, la fête de la moisson. Mais tu n'en es pas loin. Il faut simplement remonter 5 jours avant la moisson, 50 jours avant la moisson. Qu'est-ce qui se passe avant la moisson? Pas tout à fait, parce que les semailles se faisaient en hiver. Et c'était pas encore prêt. C'était la prémisse de quoi? De la moisson. Voilà. Ouais. Tu vois, je vais jusqu'au bout et tu trouves. Et c'était les premières gerbes. C'est la fête de la gerbe. Allô? Vous voyez ce que c'est qu'une gerbe? Vous les avez vues hein, pousser. Alors les gerbes de blé, les gerbes d'orge, etc. Enfin toutes les gerbes qui montent. Et donc c'est déjà que les semences, parce qu'en Israël, il y a des saisons, mais ce n'est pas aussi marqué que chez nous en hiver, mais on sème en hiver. Hein. Vous avez vu, les blés, on les sème en hiver. Hein. Et ensuite, après, au printemps, ça lève. Et à un moment donné, il y a une gerbe qui se lève. Eh bien, à Pâques, c'est la gerbe qui se lève. Et c'est la prémisse. Disons, on peut déjà espérer qu'on aura du blé, ok? Bon, bien sûr, il peut aussi pourrir sur place, mais en fait, c'est déjà mieux que quand on le sème. Quand on le sème, on ne sait pas, il peut y avoir un tas de choses qui font que ça ne lève pas. Mais déjà, au moment où la gerbe se lève et qui est déjà remplie de grains, vous voyez, c'est les grains verts, on les prenait et on les agitait à Pâques. Voilà. Donc en dehors de l'aspect de la sortie d'Égypte, il y avait cette notion de reconnaissance vis-à-vis de la gerbe qui était le prémisse. C'est-à-dire, quand on voyait la gerbe, on se dit « Ah, dans 50 jours, je vais pouvoir moissonner. » Voyez-vous ? Donc il y a toujours l'aspect de l'espérance hein, et nous avons besoin d'espérance. Vous avez besoin d'espérance? Eh bien, le Seigneur nous donne de l'espérance. Et quand on bénit le Seigneur, donc c'était une fête de bénédiction de Pâques, on bénissait le Seigneur pour ces gerbes qu'on amenait dans l'Église. Voyez-vous, j'aurais beaucoup moins de problèmes à vous poser toutes ces questions si pendant les fêtes, on vous ramenait un tas de choses. Vous ramenez des gerbes de blé ici. À Thanksgiving, vous ramenez toutes vos citrouilles et tout ça. Alors, quand je suis allé au Canada, j'étais vécu 2 ans au Canada, c'est beaucoup plus facile parce qu'ils le font. Donc on visualise beaucoup mieux les choses, ils sont beaucoup plus pratiques. Et Thanksgiving, il y a partout des citrouilles, des trucs partout et tout ça, enfin, c'est très très animé. Quoi. Voilà. Bon, revenons à notre sujet de Pentecôte. Donc Pentecôte, c'était une fête agricole qui suivait Pâques et qui était la moisson. Qui était à la fête de la moisson. C'est-à-dire qu'on moissonnait à ce moment-là. Là, on n'en est pas loin. Hein. D'ici 3 semaines, on va moissonner en France. Mais en Israël, c'est un peu plus tôt. Donc, la moisson, c'était effectivement le premier moment de moisson à la Pentecôte. Hello ? Donc, on voit que la fête de Pentecôte complétait la fête de Pâques. Vous voyez ce que je veux dire ? Pentecôte et Pâques, Pentecôte c'était complété Pâques, puisque c'était le mûrissement des grains qui étaient déjà sur la gerbe à Pâques. Eh bien si vous prenez le Nouveau Testament, l'accomplissement, parce que Jésus a tout accompli, vous vous rappelez, Jésus a accompli la parole et il a accompli les symboles. C'était des symboles de ce qui allait arriver dans le monde spirituel. Or Jésus, qu'est-ce qu'il a fait à Pâques? Qu'est-ce qu'il a fait à Pâques? C'est à Pâques hein, qu'il est mort. Qu'est-ce qu'il a fait à Pâques? Il est ressuscité. Alors d'abord, il a donné sa vie à la croix et il est ressuscité. Et à la Pentecôte, qu'est-ce qu'il a fait? Voilà, il a donné son Saint-Esprit, c'est-à-dire qu'il a complété son œuvre. Voyez-vous, elle n'était pas finie à Pâques. Okay, donc il y avait une prémisse de ce qui allait arriver, mais à Pâques, vous voyez que les disciples sont restés terrés, plutôt dans la chambre haute. Okay, ils ne sont pas sortis. Jésus leur a dit, vous attendez. D'accord? Vous attendez. Et c'est qu'à la Pentecôte qu'ils sont sortis. Et que Pierre en premier a commencé à prêcher à la foule, et il y a eu ce jour-là 3000 hommes qui se sont convertis, peut-être plus avec les femmes et les enfants, en tout cas 3000 hommes qui se sont convertis. Donc la Pentecôte chrétienne va accomplir les symboles qui sont déjà mentionnés dans l'Ancien Testament. La Pentecôte complète l'œuvre de Christ qui a commencé à Pâques. Et la Pentecôte apporte les prémices, les premiers fruits, parce que la Pentecôte c'est les fruits, et à Pâques ce sont les prémices de ces fruits. Okay, c'est des gerbes vertes. Et la Pentecôte, c'est des gerbes remplies de grains mûrs, les premiers, les prémices. Vous savez qu'ici, on est dans un endroit, en particulier Orgeval plutôt, un endroit où les premiers prémices des fruits étaient apportés sur la table royale, que ce soit Saint-Germain, quand les rois étaient à Saint-Germain, ou à Versailles. Hein, vous saviez ça? Voilà, donc c'était à Orgeval, hein, ceux qui sont à Orgeval ils connaissent l'histoire, où les premiers fruits ont été apportés. À la radio, je ne sais pas si vous écoutez la radio de temps en temps, il y a quelque temps, les premières cerises elles venaient des Pyrénées, je ne sais plus à quel endroit, une ville de la cerise, et les premières cerises elles viennent là. Et il a dit, aujourd'hui, je vais amener ça au président. Il a pris les premières cerises et les a amenées au président de la République. Vous voyez, il y a toujours cette notion de prémisse, de premier, hein, une habitude d'honorer hein, ceux qui gouvernent. Donc ça continue, vous voyez, c'est Orgeval, je ne sais pas, parce que maintenant, c'est peut-être les habitudes se sont perdues. Donc Pâques est le début de ce que Jésus a fait. Mais la Pentecôte, elle apporte les prémices de l'humanité rachetée. Les premiers fruits à la Pentecôte, c'est les premiers rachetés de l'humanité. Amen. Ce sont ces 3000 âmes qui ont reçu la parole et qui ont répondu à l'appel de Pierre et des apôtres et qui se sont sauvés. Donc c'est une ample moisson de gens sauvés. C'est le jour où commence la nouvelle alliance. Et cette nouvelle alliance par rapport à l'ancienne elle diffère radicalement en quoi? Quel est le changement radical par rapport au peuple de ces premiers fruits qui viennent de cette prédication? Quelle est la différence fondamentale entre l'Ancien et le Nouveau Testament? Pardon? Christ en nous, tout à fait. Encore dans cette même optique. Le temple, oui, donc ça rejoint cette notion du temple, la présence de Christ en nous. Et par rapport à la loi, parce que vous savez que Dieu dirige le monde par la loi, ok? Que ce soit les lois physiques ou spirituelles, hein, c'est la loi. C'est-à-dire, c'est pas la loi, le légalisme, voyez-vous, quand on pense loi, on pense légalisme. Non, c'est la loi, c'est quelque chose de positif. C'est-à-dire, sans une loi, vous pouvez pas fonctionner en quoi que ce soit. Alors, j'ai vu des mains se lever. Voilà. La grande différence, c'est que dans l'Ancien Testament, la loi était écrite sur des tables de pierre, rappelez-vous Moïse, et maintenant, elles sont écrites dans nos cœurs. Oui. Donc, tous ceux qui reçoivent Jésus, ils reçoivent la loi dans leur cœur. Hello? Ça ne veut pas dire que toute la loi, la Bible, tout est écrit dans nos cœurs. Mais ça veut dire que vous avez une conscience. Le Saint-Esprit éveille votre conscience. Que vous savez si vous péchez ou pas. Vous savez, d'accord? Personne n'a besoin de vous dire si vous péchez. Sauf si vous persistez dans un péché. Voyez-vous, si vous êtes dans un péché, vous êtes chrétien, je parle aux chrétiens. Le chrétien, c'est celui où le Saint-Esprit éveille la conscience, une nouvelle réalité de Dieu, une conscience saine, aiguisée. La parole de Dieu dit que celui qui est né de nouveau, il ne peut pas pécher. Voyez-vous? Parce que dans cette nouvelle nature qu'on reçoit, on ne peut pas pécher. On ne peut pas. Mais nous avons deux natures, la nouvelle et l'ancienne, à la fois. Et dans l'ancienne, on peut pécher. Mais le Saint-Esprit met dans nos consciences la réalité de ce qu'est le péché. Et si on joue trop avec ça, c'est-à-dire si on continue à pécher malgré le fait que le Saint-Esprit nous dit non, 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 arrête, eh bien à un moment donné, la conscience va s'arrêter de nous parler. Et c'est là que c'est grave. Voyez-vous, c'est pour ça que le chrétien, à un moment donné, peut basculer de l'autre côté s'il insiste trop, s'il profane quelque part. C'est-à-dire s'il ne tient pas compte de la grâce qu'il a reçu à la nouvelle naissance. Voyez-vous. C'est pour ça qu'on a une responsabilité. le Seigneur ne nous laisse pas éternellement bafouer, c'est-à-dire que la conscience, petit à petit, c'est nous qui l'étouffons. Oui. Bon, ça c'est un autre message, je ne vais pas rester sur ce message-là, mais il est dit dans Joël, chapitre 3, vous connaissez très bien ce passage, hein, qui annonce cette nouvelle ère, ce nouveau changement de loi, hein, qui n'est plus sur des tables de pierre, mais qui est sur des tables de chair, hein, que nous sommes. Et donc dans Joël, bon, j'espère le trouver rapidement, parce que comme j'ai qu'une main, c'est pas évident. Joël chapitre 3, il est dit « Après cela, voyez-vous, je répandrai mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos anciens auront des songes, etc. En ces jours-là, je répandrai mon esprit. » Et cet esprit sera sur vos cœurs. Et donc nous retrouvons ce passage que Pierre cite dans le verset 17 que je n'ai pas lu. Hein, « Je répandrai mon esprit sur toute chair, etc. » Donc l'esprit grave dans nos cœurs et éveille une conscience qui a été perdue lorsque nous nous sommes éloignés du Seigneur ou lorsque nous avons reçu, je dirais au travers d'Adam, cette ancienne nature contre Dieu. Le feu du Saint-Esprit, enfin, les langues qui semblaient de feu, hein, c'est ce rappel que la présence permanente du Saint-Esprit sur le croyant. C'est comme dans l'Ancien Testament où il y avait la colonne de feu, mais qui était sur le sanctuaire, sur le peuple, là, cette présence est avec nous. C'est pourquoi je pense que les assemblées de Dieu, en tout cas, peut-être maintenant ils ont changé de théologie, disaient que le signe initial du baptême de l'Esprit, c'est le parler en langue. Je ne crois pas. Je pense que le signe initial de l'entrée dans l'Église, oui, c'était le parler en langue. Mais maintenant, eh bien, le Saint-Esprit se révèle de différentes manières sur chacun, dont le parler en langue, mais ce n'est pas le signe initial. La principale particularité qu'il faut retenir de la Pentecôte, c'est que c'est un deuxième événement du mont Sinaï. Le mont Sinaï, c'était quoi? C'était... Pardon? Oui, mais plus que la loi. Parce qu'on va le rapprocher du Nouveau Testament aussi. Hein. C'est un élément fondateur. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé en France en 1789? Vous rappelez à des choses, vous ramenez à des choses qu'on connaît, qu'on vit tous les jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Révolution, et ça consiste en quoi la révolution? Ça consistait en quoi? Oui, mais tout ça c'est négatif, mais il y a aussi des choses positives, hein, la révolution. Il n'y a pas que le négatif. Pensons positif. En 1789, qu'est-ce qui s'est passé? Pardon? Bon, je dirais simplement, c'est un changement de régime politique. Okay, il y a un régime qui était sous la monarchie, et on est passé dans un régime de la démocratie. Okay, très simple. Le peuple qui gouverne, alors qu'avant c'était le roi. Donc, voilà. Mais pour faire ça, qu'est-ce qu'il faut? On ne peut pas passer comme ça de l'un à l'autre. Il faut quelque chose. Avant, si vous voulez, la monarchie était établie par quoi? Par le droit divin. Le droit divin. C'est-à-dire que c'est Dieu qui appelle un roi, qui l'établit, et ensuite après on le sacre. Hein, enfin, il y a tout un... Bon, je vous passe hein, tous les détails du sacre. C'était très, très, très important et très chargé de sens. Et d'ailleurs, la monarchie française, elle est basée sur la royauté davidique. Hein, tout est calqué sur, si vous regardez l'Ancien Testament, vous voyez exactement les similitudes. Mais revenons à la Révolution. Qu'est-ce qu'il fallait pour que les choses soient établies, qu'ils ne soient pas remises en cause? Parce que Révolution, on peut faire des révolutions permanentes. Le droit. Et qu'est-ce qui a commencé? Parce qu'à mon avis, il faut un commencement. Alors ça, c'était un élément de la Révolution, c'est vrai, mais l'élément fondateur, c'est l'Assemblée constituante. Okay. C'est une assemblée qui décide d'un nouveau droit. Donc c'est un élément fondateur. Il faut un élément fondateur, okay, sur lequel on se fonde. On revient régulièrement dessus en disant attention, le droit il est établi à ce moment-là, parce que sinon, moi je peux établir un droit tout le temps différent. Okay. Donc on revient bien. Et tous ceux qui se réclament de la République française, ils parlent de cette assemblée constituante. D'ailleurs, il y a un métro hein, qui s'appelle l'assemblée constituante, qui est un endroit précis, qui rappelle cet événement de l'assemblée constituante. Et d'ailleurs, dans tous les pays actuellement, que ce soit africains ou autres, quand on veut changer en Égypte ou autre, on définit un jour fondateur qui est l'assemblée constituante, qui constitue une nouvelle façon de gérer, un nouveau régime politique. Je dis ça parce que la Bible, c'est pareil. Tout ce qui concerne l'humanité, Dieu l'a fait avant nous. Et au Sinaï, c'est une assemblée constituante. Allô ? C'est ça, une assemblée constituante. C'est-à-dire que Dieu a appelé Abraham, Isaac, Jacob, mais c'était une famille. C'était ce qu'on appelle les patriarches. Okay. Jusqu'à Joseph, on était dans les patriarches. Okay, simplement des familles que Dieu appelle. La différence qui s'est passée en Égypte, c'est qu'à un moment donné, le peuple a grandi. Il était devenu tellement nombreux, nous dit la Bible, que le pharaon a eu peur. Parce que ça a commencé à devenir un contre-pouvoir dans son propre empire. Donc il a commencé à avoir peur et il a persécuté les Juifs. Mais Dieu a entendu les cris du peuple parce qu'il n'avait pas d'identité en dehors de la famille. Mais là, la famille commençait à devenir grande. Il y avait 12 tribus, il appartenait à un tas de gens différents. Donc il fallait un élément fondateur. Et Dieu a répondu à leurs cris, il les a sortis de l'Égypte, il les a emmenés avec Moïse dans le désert, et là, ils ont eu un événement qui était la fondation du peuple d'Israël. Alors, c'était au Sinaï. Et c'est important de voir comment se passe ce fondement, parce que si on n'est pas sur les fondements, on explore un tas d'idées qui ne sont pas bibliques. Les idées bibliques du fondement, c'est que Dieu, il est là. Et qu'est-ce qu'il est, Dieu ? Il est amour, d'accord ? Il est bon, il est compatissant, etc. C'est la révélation de Dieu à Moïse, hein, vous avez ça dans Exode 32. Et surtout, il est saint. Qu'est-ce que ça veut dire, saint ? Non, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire, saint ? Dieu est saint. Quand je lui dis Dieu est amour, tout le monde peut me répondre. Mais quand je dis Dieu est saint, la sainteté de Dieu, c'est quoi la particularité de la sainteté ? Sans péché. Il est séparé d'eux. Sainteté veut dire séparé d'eux. Séparé du péché. Séparé du mal. Est-ce qu'il y a du mal en Dieu ? Bon, c'est ça la sainteté. Il est séparé du mal. Or, il y en a un autre être qui existe, c'est Satan. Est-ce que lui, il est saint ? Est-ce qu'il est ? Péché, etc., je dirais qu'il est mal. Hein, pourquoi ? Parce que Jésus nous a appris la prière de notre Père, délivre-nous du mal, ou délivre-nous du malin. Okay ? Le malin, c'est le mal. Hein, il cherche du mal. Il nous cherche du mal, il veut du mal, il est rempli de mal, malin. Okay ? Vous voyez, ce qui se passe, c'est que on est dans un monde qui n'est pas neutre. On a Dieu qui est saint et le diable qui est mal. Et là, on veut créer une constitution de l'humanité nouvelle, une humanité nouvelle, d'accord ? Donc il faut une séparation, donc il faut être séparé de la sainteté, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas saint. Il y a quelqu'un qui est saint ici ? Hein ? On n'est pas saint, d'accord ? Donc, là c'est Genèse 2, hein. Vous voyez que Dieu a mis des anges pour qu'on ne puisse plus retourner à l'arbre de la vie, parce qu'on n'est pas saint, parce qu'on a péché. Donc on ne peut pas retourner comme ça à l'arbre de la vie sans une condition. Donc là, il y a une séparation. Donc on est séparé de Dieu, hein, on est séparé de Dieu, et ce qui est important, c'est d'être séparé de Satan. Il y en a qui veulent être unis avec Satan, donc on veut être séparé. Donc vous voyez, il faut deux séparations pour avoir une constitution qui tienne la route. Et sur le mont Sinaï, c'est ce qui s'est passé. Okay ? Dieu a appelé son peuple en dehors de l'Égypte, il l'a amené dans le mont Sinaï, il l'a constitué. Et comment est-ce qu'il a constitué son peuple ? Eh bien, il a appelé Moïse et lui a dit, voilà, donc il a demandé de monter sur la montagne, d'enlever ses sandales de ses pieds, il y a eu le feu qui est apparu, à nouveau on a le feu de la Pentecôte, mais sous forme de buisson ardent, le feu qui est l'emblème de la séparation entre le mal et le bien. Et il a dit, voilà, je constitue le peuple au travers de la loi, qui sont les commandements de Dieu. Ce qu'on sait, c'est que dans l'Ancien Testament, et donc à partir de cette loi-là, eh bien, vous serez mon peuple. Et pour les séparer du mal, qu'est-ce qu'il devait y avoir? Qu'est-ce qui a permis au peuple juif de sortir d'Égypte sans avoir de mal? Le sang de l'agneau immolé, il fallait du sang. Donc le sang sur les linteaux, le sang qui est sur les linteaux a permis à l'ange de la mort de ne pas toucher le peuple. Donc nous avons besoin de deux choses. Nous avons besoin de retrouver la communion avec Dieu parce que nous sommes séparés naturellement. Et nous avons besoin d'une protection contre le mal à cause de la méchanceté de l'ennemi. Donc il faut du sang. Il faut du sang ici. Il faut du sang ici. Pourquoi ? C'est le sang de la substitution. Substitution. C'est pour ça que dans l'ancien Israël, dans l'ancien régime, il fallait qu'il y ait des victimes innocentes qui soient sacrifiées, sauf qu'elles devaient être répétées. C'était un agneau sans défaut, etc. Donc le sang devait couler pour nous permettre de retrouver la communion avec Dieu. C'est les sacrificateurs, c'est les sacrifices. Et le sang qui a permis d'être protégé contre le mal, c'est le sang qui était répandu sur les linteaux. Je ne vais pas aller trop loin, parce que je n'ai pas le temps ce matin de faire vraiment une étude biblique, mais je voudrais faire le parallèle avec la Pentecôte. La Pentecôte, il s'est passé la même chose. Ça, c'était la constitution du peuple selon l'ancienne alliance et au Sinaï. Et à la Pentecôte, il s'est passé la même chose, la constitution du peuple de Dieu, la nouvelle alliance. Vous avez à nouveau la représentation du feu, hein, qui représente la sainteté par rapport à Dieu. Vous avez le sang de Jésus qui a été versé à Pâques. D'accord ? C'est le sang qui a été versé pour nos péchés. C'est grâce au sang qui a été versé par Jésus pour nos péchés que grâce à ce qu'il a fait une fois pour toutes, nous pouvons retrouver la communion avec Dieu. Ok ? Et du coup, Jésus est devenu le souverain sacrificateur. Amen. Le souverain sacrificateur, le souverain prêtre, hein, qui peut présenter lui-même son propre sang. Alors que les anciens sacrificateurs devaient présenter régulièrement le sang des victimes. Et nous avons le sang de Jésus ici, qui nous protège. D'accord ? Rappelez-vous la constitution que Jésus a fait de son église dans Matthieu 16:16. Avant de mourir, Jésus parcourait toute la Galilée et avant de mourir, il est monté sur le mont Hermon. C'est la montagne la plus haute d'Israël, un peu le Sinaï d'Israël, parce que le Sinaï c'est en Égypte. Et il a réuni ses disciples. Et il a demandé : qui dites-vous que je suis ? Et Pierre a dit : tu es le Christ, de Dieu. Et Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, c'est l'Esprit. Et en cela, il voulait dire, voilà, là tu as dit une parole prophétique, une parole qui est fondatrice du rapport entre Dieu et le peuple. Et il lui a dit ceci, tu es Pierre. Et sur cette pierre, Jésus, je bâtirai mon église. Quoi? Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus a fondé l'Église sur le fait que eh bien, le mal, qui est représenté par Satan, ne peuvent pas atteindre l'Église. Il y a une protection. Le sang de Jésus. C'est pour ça que quand on invoque le sang de Jésus, quand on invoque le nom de Jésus, c'est au nom de Jésus qu'on chasse les démons. C'est au nom de Jésus. C'est au nom de Jésus. Amen. Pourquoi? Parce que dans le nom de Jésus, eh bien, l'ennemi ne peut rien. Il a peur. Il s'en va. Dès que vous utilisez le nom de Jésus, pas en vain, mais avec avec l'autorité du Saint-Esprit. Donc nous sommes protégés de part et d'autre. Et vous, un peuple, quand il se constitue, la République française, quand elle s'est constituée, elle a immédiatement été attaquée de tous les, de tous les pays européens, parce que c'était tous des monarchies. Et ils avaient peur, bien sûr, pour ce qui s'est passé in fine, mais ils avaient peur pour leur trône, leur privilège. Et, tout ça. Et donc l'ennemi aussi a peur. Il a peur de Jésus. Okay. Il a peur de Jésus, et en particulier le peuple chrétien. Il attaque particulièrement les chrétiens. Parce que s'il ne peut pas s'attaquer à Jésus, c'est impossible. Il s'attaque au peuple. Ça, vous avez des problèmes. Vous vous êtes posé une question parfois, vous avez des problèmes dans votre vie. Vous voulez faire l'œuvre du Seigneur, vous voulez servir le Seigneur, vous n'y arrivez pas, tout ça. C'est à cause de ça. Parce que vous êtes attaqué en premier. Vous êtes la première cible, tout ça. Mais la bonne nouvelle que nous avons, c'est que nous sommes protégés par le sang de Jésus. Amen. Nous sommes protégés par le sang de Jésus. Et donc ici, nous avons la loi. La loi n'a pas changé. Hein. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le Nouveau Testament que la loi n'est pas... La loi. Sinon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu se serait trompé en donnant la loi. Que tout ce qu'il a dit, ce serait faux. Non, c'est toujours vrai. Sauf que Jésus l'a accompli. Nous ne l'avons pas accompli. Et nous ne pouvons pas l'accomplir sans l'aide. Et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Et donc, le Saint-Esprit, Jésus le donne pour que la loi soit écrite dans nos cœurs. Okay. Et donc, nous sommes le peuple de Dieu. Nous avons un privilège extraordinaire, c'est d'être protégés des attaques de l'ennemi et d'être acceptés dans la présence de Dieu au travers du sacrifice de Jésus. Pas merveilleux ? Voilà le nouveau régime. Rapidement, pour clore, je voudrais vous donner quelques autres éléments de la Pentecôte. La glossolalie, c'est-à-dire le parler en langue. Qu'est-ce que ça signifie ? C'est un rétablissement aussi. Quel rétablissement ? Par rapport à une dégradation qui s'est faite au niveau de l'humanité. Qu'est-ce qui a divisé l'humanité ? Tour de Babel. Jusqu'à la tour de Babel, il n'y avait qu'un seul peuple, qu'une seule langue. Et à la tour de Babel, qu'est-ce que Dieu a fait? Comment est-ce qu'il a divisé? En amenant la confusion. La confusion par les langues différentes. Or, la Pentecôte, il se passe l'inverse. Il se passe l'inverse de la confusion. C'est le brisement, la confusion, c'est l'unité qui revient. Amen. Chacun entendait dans sa propre langue les merveilles de Dieu. Amen. Les merveilles de Dieu. Voyez-vous, les langues sont un moyen, à ce moment-là, fondateur de l'unité du peuple. C'est pour ça que le peuple de Dieu est un sur la face entière. Que vous allez, tous nos amis qui sont à l'étranger, quand on vient dans une église comme celle-là, on se retrouve un, même si la langue est un peu différente. Et le parler en langue permet aussi de parler. Alors c'était étonnant parce que une fois ils ont fait une expérience. Alors il y a plusieurs expériences. Vous savez, la manifestation du Saint-Esprit est totalement différente parce que c'est Dieu qui est souverain. Il fait ce qu'il veut. Parfois il y a quelqu'un qui parle en langue dans une langue. Si par exemple il y a quelqu'un qui est ici qui est javanais, on peut parler en javanais et il peut comprendre. Parfois il y a une langue qui est parlée. Une fois ils ont fait une expérience dans une convention. Ils ont enregistré un parler en langue. Et la personne a compris, et ensuite après, il ne savait pas quelle langue c'était. Donc parfois, simplement, le Seigneur peut parler à quelqu'un dans une langue, mais vous ne la comprenez pas. Comme Paul, qui est tombé du cheval, il entendait la voix, et ceux qui autour ne l'entendaient pas. Voyez-vous, ce sont des manifestations spirituelles. Ne cherchons pas à refaire des manifestations spirituelles, à provoquer des manifestations spirituelles. Elles sont l'œuvre de Dieu, l'œuvre du Saint-Esprit, respectons-les. Et profitons-en, hein, mais ne cherchons pas à les reproduire. Ça, c'est aussi une caractéristique de l'homme qui veut reproduire les choses spirituelles. Ne cherchons pas jamais ça, parce que c'est touché à la sainteté de Dieu. Nous avons là aussi une manifestation d'un vent violent, qui semblait être un vent. Hein, et le vent pousse. Hein, souvent, on chante ce chant, il pousse dans les voiles. Et ça aussi, c'est une caractéristique de la Pentecôte. Le vent nous pousse. Et si toi tu es timide, eh bien le Seigneur ne te donne pas un esprit de timidité. Tu es peut-être timide. Vous savez, on est tous un peu timides. Bon, simplement l'éducation, certaines familles qui poussent tout de suite à
spirituellement, tous nous avons un esprit de force, d'amour et de sagesse. Tous nous avons un esprit de hardiesse. Tous nous recevons par le Saint-Esprit un esprit d'audace, d'autorité et d'assurance. Et c'est comme ça. Vous savez, Pierre était comme ça, mais il était poltron. C'était un peu une grande bouche, comme on dit. Mais vous savez, quand la petite servante a dit, je t'ai vu, toi, avec Jésus. Tac, terminé, c'est fini. Non. Mais, au fond, il était poltron, il était timide. Il avait peur même d'une servante. Parce qu'on peut imaginer les choses. Et donc, ne vous faites pas d'illusions. Tous nous sommes timides. Tous nous recevons par l'Esprit de Dieu une assurance, une autorité et une grâce. Et quand vous recevez cet esprit, eh bien, vous pouvez exercer l'autorité spirituelle. Et si quelque chose est contre vous, bien, au nom de Jésus, vous prenez autorité. Vous n'êtes pas comme ça. Oui, qu'est-ce que non. Vous êtes là, hein, et c'est l'ennemi qui a peur, c'est pas vous. Mais si vous avez peur, ben vous faites le jeu de l'ennemi. Donc, prenons l'assurance que la Pentecôte nous donne à travers ce que Jésus a fait, nous a donné son esprit. Nous avons aussi, bien sûr, différentes images du Saint-Esprit, la colombe. La colombe qui est venue sur Jésus et qui l'a revêtu de puissance. Il y a aussi l'huile qui est répandue, parce qu'un peu après, Pierre dira à la foule, eh bien, élevé par la droite de Dieu, verset 33, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. On pourrait dire, mais attendez, Saint-Esprit est une personne, il va se répandre. Et c'est des formes imagées qui montrent que le Saint-Esprit a répandu sur les croyants eh bien, une onction, comme l'huile qui est symbolisée par le Saint-Esprit dans l'Ancien Testament, et l'eau vive, puisque Jésus parle à la Samaritaine, on en a parlé, que l'eau vive elle est répandue, et nous pouvons rentrer dans l'eau vive. Donc le Saint-Esprit est une personne, mais en même temps une action bienfaisante, bénéficiaire pour nous dans chacune de nos vies. Il y a quelque chose d'important, et je voudrais souligner ce point-là avant de finir, c'est l'importance prophétique. La Pentecôte est un moment prophétique. Prophétique, ça veut dire quoi? Ça veut dire parler des oracles de Dieu. Alors, c'est quoi les oracles? Vous avez déjà entendu dans les psaumes, oracle de Dieu, oracle de Dieu. Qu'est-ce que c'est un oracle? Vous voyez, on utilise des mots, parfois on ne sait plus les mettre en relation avec une réalité. Oui? Tu as levé la main? Non. Un oracle. Oracle du Seigneur. Révélation? Oui? Parole? Oui. Alors tout d'abord, c'est un lieu. Vous voyez, on ne pense pas au lieu. Un oracle, c'est un lieu. Par exemple, l'oracle de Delphes, les Grecs, ils allaient à Delphes, c'est un lieu où il y avait des oracles. Okay? Donc c'est un lieu, un sanctuaire, si vous voulez, un lieu sacré, un oracle. Par exemple, le Sinaï, c'était un oracle, c'est un lieu où Dieu a parlé. Okay? Donc, si vous regardez un dictionnaire que j'ai fait, d'ailleurs, dit Larousse, parce que je ne suis pas plus intelligent que vous, hein, moi je m'informe, c'est un lieu sacré. Or, le lieu, maintenant, il est dans nos cœurs, alors, puisque le Saint-Esprit est gravé sur nos cœurs. Donc, nous sommes un lieu sacré, nous sommes un oracle. Alors, voyez-vous? Avant, il y avait des oracles dans l'Ancien Testament. Les prophètes étaient des oracles. Ils parlaient. Mais une fois qu'ils se taisaient, il n'y avait plus rien. Okay? Ils reparlaient, il n'y avait plus rien. Et pendant 400 ans, il n'y avait rien. C'est ce qu'on appelle le mutisme de Dieu intertestamentaire entre Malachie et la venue de Jésus. Il parlait. Et vous savez qui est-ce qui a parlé à ce moment-là? Dans cette période-là. Alors, ce n'est même pas de moi, c'est même pas seul. J'ai pas de privilège là-dessus. C'est étonnant, parce que quand Dieu parle pas, c'est l'homme qui parle. Pendant 400 ans, Dieu n'a pas parlé. Malachie, c'est la fin des prophètes. Et Jésus, c'est à nouveau le prophète de Dieu, qui parle les oracles de Dieu. Et entre les deux, toute la philosophie est née. Et tous ces philosophes comprennent maintenant, voyez-vous, parce que pendant que Dieu ne parle pas, les hommes ils parlent. Et ils ne disent pas forcément de bonnes choses. Ça veut dire que tout ce que Platon dit est négatif. Et c'est
très attention à la parole. Et nous, est-ce que nous voulons être des oracles? Parce qu'il y en a qui veulent ici être des oracles. Nous sommes appelés à être des oracles. Des oracles. Mais l'oracle est d'abord un lieu saint et au travers duquel on parle, on prophétise. Et si nous voulons prophétiser, si nous voulons parler, prophétiser, c'est d'abord dire des bonnes choses, encourager les autres, parler de la part de Dieu, parler des bonnes choses, édifier. Okay ? Eh bien, nous sommes appelés à être des oracles aujourd'hui. Et ça, c'est la Pentecôte. La Pentecôte a établi le moment où nous sommes des oracles, des prophètes. Et c'est pourquoi aujourd'hui, le peuple de Dieu, aussi bien le plus petit que le plus grand, nous sommes appelés à rentrer dans ces trois offices de prophète, de sacrificateur. Donc la prière est importante. L'oracle, la prophétie, c'est de parler de la part de Dieu. Et de roi, régner avec Christ. De régner sur nos vies. De ne pas laisser les événements nous régner. De ne pas laisser les circonstances nous régner. C'est nous qui régnons. Alors, nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des acteurs en Jésus-Christ. Amen. Et là, beaucoup de chrétiens ne rentrent pas dans ces notions-là parce qu'ils ne comprennent pas l'influence de la Pentecôte, de l'élément fondateur qui a fait de nous un peuple de Dieu. Bien sûr, Jésus est le souverain sacrificateur, nous sommes les sacrificateurs. Jésus est le souverain oracle, prophète, nous sommes des prophètes, mais pas à la hauteur de Jésus. Jésus est le souverain roi qui s'est assis sur le trône de David et nous sommes des rois, des reines qui devons régner dans la vie avec Jésus-Christ. Tout cela, la Pentecôte nous l'a apporté par son acte fondateur. Amen. Je termine là-dessus en disant, celui qui accepte Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur reçoit le Saint-Esprit. Attention, ne nous bagarrons pas avec les noms charismatiques. Nous recevons le Saint-Esprit. Parce que si... Uniquement si nous avons le Saint-Esprit, nous pouvons dire que Jésus est Seigneur et Sauveur. Donc nous avons tous le Saint-Esprit. Mais nous devons le recevoir en abondance. Et c'est ce qu'on appelle le baptême, l'immersion dans le Saint-Esprit. Donc nous recevons le Saint-Esprit pour être croyants. Deuxièmement, nous pouvons être immergés, comme nous serons immergés dans l'eau auparavant, immergés dans le Saint-Esprit pour le servir avec nos talents. Pour le servir avec nos dons, pour le servir avec la force qu'il nous donne pour le faire. Évitons donc d'attendre le baptême du Saint-Esprit. Moi, quand je me suis converti dans une église, on a dit on va attendre le Saint-Esprit, donc on faisait des réunions d'attente du Saint-Esprit. Je ne pense pas que ce soit biblique, mais bon, il faut respecter les croyances. Le Saint-Esprit a été donné. Okay. Simplement, il faut préparer nos cœurs à le recevoir davantage. Et là, il y a des conditions. Ne donnons pas un coup de main au Saint-Esprit. Il n'a pas besoin de coup de main. Il est assez puissant. Hein. S'il veut faire tomber quelqu'un, si on prions pour quelqu'un, laissons le Saint-Esprit faire. Toutes les manifestations de puissance, laissons-le au Saint-Esprit. Et n'imitons pas le Saint-Esprit, que ce soit avec des rires, avec des cris, avec du parler en langue. Il y en a qui veulent imiter pour aider certains. Non, on n'a pas besoin de ça. Laissons l'authenticité de l'action du Saint-Esprit. Et dans Actes 2, 37, ce sont les bases de la vie chrétienne selon cette constitution. Pierre dit « Repentez-vous ». Donc changez de point de vue et de comportement, la métanoïa. Michel en a parlé dimanche dernier. Que chacun soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Le baptême est un acte fondateur du croyant hein, qui s'identifie à Jésus, à sa mort et à sa résurrection. Et la troisième chose, c'est recevoir les dons du Saint-Esprit, que ce soit les dons de la parole, les dons en tant que talent pour la mission, ou les dons de puissance, la dynamis, l'autorité. Voilà donc ce qui est notre part, la part de Dieu, il l'a fait à la Pentecôte. Nous sommes bénéficiaires de cette action de Dieu. Nous devons nous repentir, nous devons nous faire baptiser, et nous laisser remplir du Saint-Esprit pour l'œuvre et la mission à laquelle il nous appelle d'aller par tout le monde pour prêcher la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Je vous invite à prier.